Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4.
Vous écoutez actuellement l'émission Un peu d'air frais.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, émission Un peu d'air frais. Et on a le plaisir de recevoir Carmit Arache et Michaël Damperon. Alors on va, en fait on les a rencontrés à l'occasion de la programmation du festival Bobine Rebelle, qui aura lieu le dernier week-end de novembre, le 26 et 27 novembre, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, métro Porte de Paris. C'est un festival à prix libre et on serait très heureux que cette émission vous donne envie de venir voir les films dont on va parler aujourd'hui. Donc d'abord avec Carmit Arache. Bonjour.
Bonjour.
Alors on a vu votre film qui nous a beaucoup plu, qui s'appelle Demain. Et peut-être pour lancer la discussion, enfin c'est pas du tout un débat, c'est juste pour que vous nous parliez de ce film, on pourrait dire que ce film Demain c'est l'autobiographie, ou pas l'autobiographie, l'autoportrait d'un loser.
C'est vrai.
Ça peut aller comme formulation.
C'est l'autoportrait d'un loser. C'est-à-dire que le film mélange deux points de vue. D'un côté autoportrait, c'est-à-dire c'est un film en jeu. Et de l'autre côté, c'est un film en tu. Parce qu'il y a aussi une conversation entre, dans ce cas-là, c'est loser en question, c'est mon frère et moi. Okay. Et ce n'est pas seulement un loser. C'est d'un côté un loser, mais c'est surtout quelqu'un qui est très passive et politiquement. Mm-hmm. Politiquement passive. Mm-hmm.
Et, il dit qu'il fait partie de ces indifférents de la gauche israélienne, c'est ça?
Oui, parce que je pense que en Israël comme en France, je pense, et oui. Il y a un côté d'inactivité politique. Mm. c'est-à-dire démobilisation et, ou peut-être, comment dire, et paralysie.
Ouais. Ou... Vous diriez impuissance ?
Impuissance, oui, c'est
un sentiment d'impuissance. C'est
plus psychologique.
Ah non, mais non, je veux plus, pas du tout faire de la psychologie.
Et de le dire, mais disons que le résultat de tout ça, c'est une paralysie, c'est-à-dire inactivité politique. Et c'est sur cette question que je voulais m'interroger, en fait. Mm-hmm. C'est la question que je voulais explorer. Et cette paralysie politique qui est inactivité politique qui est parfois... disons que c'est très frustrant de voir ça devant soi, quand on voit quelqu'un qui est qui croit, qui a des convictions, mm-hmm. qui a des vraies opinions et profondes et intelligentes, et pourtant n'arrive pas à, comment dire, à passer à l'acte.
Oui. Et du coup, vous le faites en deux parties, avec cette première partie, mm-hmm. je dis un peu plus concrètement du coup pour les auditeurs, une première demi-heure qui est un autoportrait avec une voix off, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu ça. Mm-hmm. Et où votre frère, dont je ne me souviens pas qu'on ait entendu le prénom dans le film, en fait. Il s'appelle Youssef, mais...
Oui,
il n'y a pas de prénom.
Il n'a pas de nom. D'accord. Il n'a pas de prénom.
Et une deuxième partie, qui est un dialogue entre vous et... et entre vous deux, en fait. Et c'est un film qui se passe à Tel Aviv. Moi, je voudrais partir de la première image, quoi, de la première séquence, qui est... un jeune homme qu'on voit de dos, l'image est en noir et blanc, qui avance vers la mer et qui raconte comment, entre autres choses, il a arrêté d'écrire.
Et, c'est-à-dire que oui, ça commence comme ça. Et la première partie, le film est en fait divisé clairement en deux parties. Une partie, la première partie est plus fictionnelle, c'est tourné, tout le film est tourné en noir et blanc. Mmh. La première partie, elle est tournée en Super 8. Et noir et blanc, donc ça fait très... C'est un autre style d'image, disons, que l'image vidéo.
Oui, ça donne une ambiance particulière, d'ailleurs.
Voilà. Et en fait, le film est divisé en deux parties. La première partie est en jeu, où le personnage, qui est mon frère, raconte sa vie, elle raconte sa paralysie. Mmh. Dans d'autres domaines que le domaine politique. Mmh. C'est-à-dire dans la vie personnelle, dans la vie créative. Et en l'occurrence, l'écriture. Mmh. Il a arrêté d'écrire. Et tout va mal. Et il ne sort plus de chez lui. Et il se voit comme un loser. Et il se définit comme un loser. Mmh. Et c'est une partie plus fictionnelle, disons. Pas tout ce qui est raconté dans cette partie est vrai.
Donc c'est une sorte d'autofiction. Est-ce que
mais il y a des parties vraies. C'est basé sur la, c'est-à-dire c'est fiction et documentaire à la fois en fait. Et la deuxième partie c'est documentaire. C'est-à-dire c'est une conversation et même une confrontation entre nous deux. Une confrontation sur le sujet politique.
Mais justement, pour revenir un instant sur cette première partie, est-ce que vous pouvez nous raconter la construction de cette voix off ? Qui a écrit le texte ? Qui le dit ?
Et déjà, c'est marqué dans le générique de fin, c'est marqué, mais c'est lui qui a écrit le texte.
Donc il n'a pas complètement arrêté d'écrire.
C'est un truc qu'il arrête, il reprend, et bon, ça dépend de lui. Parce que c'est un documentaire, après tout. C'est un film documentaire.
Ouais, ouais.
Donc il y a des vérités dedans, oui. Et celui qui a écrit le texte, c'est moi qui a édité, c'est-à-dire c'est moi qui a décidé quel texte on va lire.
D'accord.
Et quelle sera la place du texte.
D'accord. Film, ouais. Vous êtes la monteuse du texte. Vous êtes la monteuse
du... Non, je suis la réalisatrice du film.
Oui, oui.
Et j'ai décidé...
Très bien, très bien.
Oui, mais l'intérêt de base, au niveau voix off, c'est son texte. Mm-hmm. Oui. C'est lui qui l'a écrit, oui.
D'accord.
Mais du coup, peut-être, est-ce que tu as envie de nous parler justement de la deuxième partie ? Ou alors... ouais.
Et la deuxième partie, c'est une conversation entre nous. Parce que mon frère fait partie des, je ne sais pas combien, nombre de gens, mais des hommes israéliens et qui font les services de réservistes. Et c'est-à-dire que, juste pour expliquer vite fait qu'est-ce que c'est un réserviste, parce que pas tout le monde sait. C'est-à-dire que les hommes en Israël font trois ans de service militaire obligatoire. Ça commence à l'âge de 18 ans jusqu'au l'âge de 21 ans. Et après, ils sont obligés de donner un mois par an, de s'engager comme réserviste.
D'accord.
Donc, un mois par an, jusqu'au l'âge de 40 ou 42 ans.
D'accord.
Je ne suis pas sûre.
D'accord. Oui, tu fais bien de...
Ouais,
voilà,
on savait pas.
Donc, réserviste, ça veut dire faire un mois par an de service militaire. Et parfois, c'est réparti sur une semaine par an. Bon, c'est des questions techniques. Mm. En total, c'est un mois par an. Et il est fait. Il y a aussi des gens, c'est une petite minorité, vraiment très très petite minorité. Et en Israël, qui refusent de faire ça, qui n'y vont pas de raisons idéologiques. Mais c'est une petite minorité.
Qu'est-ce qui se passe quand on refuse?
Et qu'est-ce qui se passe? On peut avoir un procès, on peut faire de la prison.
On peut être emprisonné.
C'est pas prison à vie, mais...
Ah, oui,
c'est vu comme déserteur, et du coup, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Et... Donc c'est une minorité, mais lui il le fait. Donc on parle de ça. On parle en fait, la conversation est part de son dernier service de réserviste, de ce qui s'est passé. Et il raconte, il me raconte très bien ce qui s'est passé. Et à partir de là, on parle de politique, de convictions politiques, et comment est-ce que c'est possible d'appliquer ça. C'est-à-dire qu'on a des convictions politiques, mais sauf à part le fait qu'on a des convictions politiques, comment on les applique vraiment? Est-ce que c'est possible de le faire, oui ou non?
C'est ça la force en fait du dialogue, c'est que vous partez tous les deux de cas très concrets qui se sont passés, qui lui sont arrivés, et qu'il appelle des incidents, enfin dans la version française, dans les sous-titres, ça s'appelle les incidents.
Parce qu'il y a un langage d'occupation israélienne dans les territoires. Il y a des mots.
Donc, ce n'est pas une grande conversation politique extérieure abstraite. C'est une conversation sur des choses qui lui sont arrivées en tant que réserviste et comment, dans ces cas-là, en tant qu'humain et en tant que réserviste et en tant que participant à l'équipe des gens avec qui il est réserviste, il a réagi. Et du coup, c'est vraiment des cas particuliers qui deviennent en fait exemplaires. On sent bien que ce qu'il raconte sur le jeune homme emprisonné dont l'ami a été tué par les balles de Tzahal. Il y a des histoires très concrètes comme ça qui du coup donnent corps à la réflexion politique. Mais du coup, c'est une conversation entre un réserviste gauchiste et il t'appelle à un moment déserteuse, c'est ça? Il dit en Israël, il n'y a pas de mot pour émigrer, tu es partie. On dirait que tu es déserteuse.
Oui. C'est-à-dire que, disons qu'Israël, c'est un pays très politique. Tout est lié à la politique. Et la politique envahit la vie personnelle aussi. Il n'y a pas de vie personnelle, vie privée sans politique. Si on veut ou si on ne veut pas, c'est là. Et l'immigration ou l'expatriotisme aussi.
L'expatriotisme, c'est pas mal.
L'expatrie est vu aussi de... C'est moins fort aujourd'hui, disons. C'est moins fort, mais avant, c'était vraiment dans les années 80, même 90, c'était vraiment vu d'une façon, une désertion. Parce que c'est vrai qu'Israël est un pays très politique et dans la vie privée, et que c'est un pays très idéologique. L'idéologie a une grande part de de la vie.
Et toi, tu es partie, quand est-ce que tu es partie d'Israël?
Et moi, je suis partie en 2000.
D'accord.
Et je voulais dire une autre chose sur le sujet de paralysie politique ou inactivité politique. C'est que le film, dans sa forme, en fait, il est divisé en deux parties. Qui expriment un petit peu, selon mes attentions, et la division... La déchirure qui vit mon frère, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il est quelqu'un de vivant, il a une vie intérieure, il a des motivations différentes. Et de l'autre côté, il n'est pas capable de les réaliser. C'est-à-dire lui-même, il est déchiré. C'est pas un film schizophrénique, mais...
Non, ça donne pas.
Un peu En fait, c'était ça un peu l'idée aussi de diviser le film en deux.
D'accord.
De le diviser clairement en deux parties.
Et c'est peut-être l'idée du titre aussi, qui s'appelle Demain. Enfin,
oui.
Le film s'appelle Demain, donc il y a un moment où il dit « Demain, je change tout », et c'est absolument super, comme moi, je descends les poubelles, j'apprends à manger j'arrête de fumer, j'arrête toutes les drogues, je trouve une copine, quelqu'un qui m'aimera et que j'aimerai encore plus et tout, demain. Mais on sent bien que c'est pas juste demain pour... d'un point de vue personnel, c'est pas juste de la procrastination personnelle, c'est qu'est-ce qu'on va faire aussi demain politiquement, comment on
fait. Oui, c'est qu'on rapporte tout à demain. On fera tout, mais demain. Et comme ça, c'est jamais fait, en fait.
Alors peut-être justement, pour un peu donner une idée aux auditeurs de manière radiophonique, on va dire, de justement ton rapport avec ton frère. On peut peut-être écouter un extrait de ton film où on t'entend justement toi discuter avec ton frère. Alors je ne sais pas quel extrait tu aurais envie qu'on passe là.
Et il y a la partie de, où on siffle.
Tout à fait, ouais. Ok.
Donc c'est un épisode où vous êtes assis tous les deux sur le canapé. Donc on te voit bien à l'image. Hein. Peut-être c'est important de le
dire. Oui, on ne me voit pas beaucoup. Mais
ouais, on met,
là, on te voit dans cet extrait du moment.
Venez voir le film, on me voit.
Voilà. Et venez au festival, comme ça, vous rencontrerez Carmine Sarrache à la fin. Peut-être qu'on aura des questions, du coup. Ouais. Mais, et donc vous êtes assis tous les deux sur le canapé. Et tu lui apprends à siffler.
J'essaye.
Voilà, c'est ça. Et il y a toute une. Et, alors, quand même, il faudrait dire que c'est un épisode qui suit juste le moment où on voit l'écran de la télévision allumé et on voit George Bush qui arrive à l'aéroport et
ça.
Quelqu'un siffle, je sais pas qui en fait, quelqu'un siffle l'hymne américain.
En voix off, ouais. On entend le sifflement sur cette émission télé,
ouais.
Voilà.
Et pendant que tu aides, que tu essayes d'apprendre à ton frère à siffler, il y a encore la voix off de ton frère qui dit « De toute façon, moi, j'ai jamais réussi. » Donc, peut-être on peut le dire en quelques mots ici en français, parce que probablement que ce sera la version originale, du coup, en hébreu qu'on entend. Il dit « J'ai jamais réussi. À l'école, je réussissais pas. Avec les filles, je réussis pas, etc. » Et du coup, on a l'impression que ses cours de sifflage devient une espèce d'image de ce qu'il a pas réussi à faire.
C'est-à-dire que c'est... Même siffler, essayer d'apprendre à siffler, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire, c'est le loser, le losing, le perdant, c'est perdre d'avant. D'une certaine façon, c'est du défaitisme. C'est pas... Voilà.
Mais je
défaitiste,
comprends...
C'est l'esprit défaitiste, c'est vraiment...
Et en effet, et en même temps, c'est un défaitisme, on ne peut pas dire joyeux, parce que ce n'est pas exactement un film joyeux, c'est un film qui a beaucoup d'humour, en fait. Il y a beaucoup de moments, et notamment dans des scènes très, très confiantes entre le frère, la sœur, ou avec la mère, quand on fait des boulettes de viande, ou quand on tond le frère, quand on tond ses cheveux, et tout ça, il y a beaucoup de...
C'est son frère.
L'autre frère. Bon, donc, on va écouter cet extrait pour vous donner une idée.
את יודעת שאני לא יודע לשרוק.
מה זאת אומרת, אתה לא יודע לשרוק?
אני לא יודע לשרוק, אף פעם לא למדתי לשרוק.
אז אני אלמד אותך, מה הבעיה? זה ממש קל.
נו.
אוקיי. סגל. תנסה.
מה?
אתה צריך לזרוק את האוויר החוצה. להצמיד.
עוד פעם.
בלי הלחיים.
אוקיי.
אתה מאמץ רק את השפתיים. אתה מקווץ אותה?
אוקיי, רגע.
תראה, אתה עובד
אף פעם לא הייתי טוב בכלום. עם בחורות אין ספרטוט, אחרי שנייה שאני מכיר אותם, אני כבר עושה כל מה שאומרים לי כמו איזה כלבלב מוכה, מאבד את כל האופי שלי, ואז הן זורקות אותי.
Cet extrait de ton film où on entend que tu apprends à siffler à ton frère. Et en fait, moi, je me disais qu'il y a d'autres extraits qu'on pourrait présenter qui sont aussi drôles et qui permettraient de donner aussi une idée de l'ambiance du film, qui est à la fois donc, un autoportrait d'un loser, si on peut dire comme ça, un autoportrait du défaitisme, mais aussi... un vrai dialogue politique sur où on arrive quand même à la fin à tes questions qui sont quand même très incisives sur notamment sur la valeur du silence en fait de ton frère.
Oui, parce que tout à fait, parce que moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans ton film, c'est déjà ta place, toi, en tant que réalisatrice, en tant que sœur, et justement dans cette deuxième partie qui est dite plus politique, toi, tu n'es pas du tout à t'effacer pour avoir un discours un peu, une réflexion personnelle, mais justement, j'aime beaucoup, c'est la manière dont tu relances des questions qui peuvent paraître gênantes, mais là, comme il y a une intimité du fait de la famille, on les prend pas du tout comme gênantes, mais au contraire, elles amènent justement à des choses qui, lui, en tout cas, le font se questionner. Alors,
Et les questions sont à la fois très percutantes quand tu lui demandes, tu lui dis tu es du côté tu es du côté qui se tait. C'est quand même très fort de dire ça comme
mais
ça.
Va, ouais.
Et ce qui marche très bien dans le film, c'est que votre complicité et votre proximité en tant que frère et sœur permet ça. Il y a un terrain de confiance qui permet vraiment cette conversation. Tu lui demandes du coup la valeur de son silence. Est-ce que c'est du consentement? Et lui-même, en fait, il y a la place pour qu'il réfléchisse à des réponses qui correspondent vraiment à... Il n'est pas en train de se braquer. Et j'ai trouvé... il dit finalement, je suis réserviste pour voir ce que nous sommes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça veut dire?
Après, il m'a dit, après le film, il a vu le film, il m'a dit, oh, peut-être ça passe comme, cette réponse passe comme un prétexte, en fait.
Un prétexte
juste de justifier le...
Ouais, non,
pour justifier le fait qu'il fait le hasard.
Ouais.
Qu'il va... Et... Donc... oui, c'est vrai que c'était le questionnement l'a fait réfléchir. Et pendant la conversation, il a répondu, il a expliqué pourquoi il fait. Parce que la question, c'est vrai que je pose des questions très directes et très...
Mais surtout,
difficiles.
Ce qui est étonnant, c'est qu'au début, il dit, c'est pour voir... Enfin, quand on est à une frontière, c'est le seul endroit où on peut voir vraiment des choses comme ça, parce qu'il ne croit pas aux médias, il ne croit pas au discours officiel. Quand on voit, quand on fait une limite, quand on fait la frontière et qu'on empêche des gens de passer ou qu'on les contrôle, c'est le seul moment où on peut vraiment voir le regard de peur dans les Palestiniens, la peur dans le regard des Palestiniens, plutôt.
C'est-à-dire que je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que il veut voir la réalité sans médiation, sans médiateur.
Et la réalité des Palestiniens, mais aussi des Israéliens, en fait.
Oui.
Puisque ce qui
d'assumer d'une certaine façon, d'assumer.
Et toi, tu questionnes justement cette réalité sur les Palestiniens dont il parle, qui est finalement du point de vue des réservistes israéliens. Toi, j'ai l'impression que tu questionnes, est-ce que cette réalité-là, c'est vraiment la réalité aussi. Est-ce que la peur, c'est vraiment dans l'essence du Palestinien? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens, en quelque sorte, de rencontrer les Palestiniens et de voir aussi d'autres choses qui, bien sûr, existent?
Oui, mais sa réponse à ça, c'est que la situation est une situation dans laquelle les Palestiniens ont peur et les Israéliens sont des occupants.
Oui. Et justement, ça lui permet aussi de sortir de Tel Aviv. Il le dit comme ça, de sortir de son milieu.
Oui, l'illusion de Tel Aviv, qui est une illusion d'une ville normale.
Une ville normale.
une ville en paix.
Tu la filmes
tout va bien, oui, où la vie est quotidienne est...
Tu la filmes très bien, cette ville. Il y a beaucoup de plans qui viennent de... Je ne la connais pas, mais ça m'a donné envie. Avec d'autres films israéliens aussi qui prennent Tel Aviv comme scène. Mais c'est la première fois que je le voyais filmé comme ça, donc en Super 8, en noir et blanc, depuis une voiture. Et c'est des plans sur les...
Je pense que le... je pense... C'est depuis le bus.
Ah, d'accord.
Je n'ai pas de permis de conduire. Donc... C'est vrai que je pense que le noir et blanc est fait du bien à Israël en général, comme pays. Je pense, c'est mon point de vue visuel. Et parce que ça met en valeur plus les formes que les couleurs.
Et les contrastes.
La gamme
aussi.
De couleurs est un peu. À mes yeux, un peu limité ou pas très belle toujours. Et... Bon, en hiver, ça va mieux qu'en été, mais je pense que le noir et blanc rendent Israël et Tel Aviv plus belles.
Oui, en effet. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a. Et aussi très contrasté.
Sans vouloir embellir la réalité.
Non, bien sûr, on ne sent pas du tout ça. Y a pas de...
et sans préciser. Ça, moi, je trouve que ton documentaire rentre vraiment dans ce qu'on appelle cinéma d'auteur et de création. C'est que par cette utilisation et de la DV et de la Super 8, on arrive aussi à des séquences qui, moi, me semblent proches de l'expérimental, notamment la séquence en boîte de nuit. Mm-hmm. Tu les vois danser, et justement, ce noir et blanc, ce choix du noir et blanc permet des contrastes stromboscopiques. Mm-hmm. Où, ça permet aussi d'ouvrir. Tu disais, il y avait la réflexion de toi, la réflexion de ton frère, et là, il y a vraiment la place pour le spectateur aussi, de prendre le temps, justement, de découvrir cette ville qu'on ne connaît pas, par des choix esthétiques qui sont, moi, je trouve, en tout cas, très intéressants.
Oui, et là, Elsa, tu parles de l'image de la boîte de nuit, mais la musique que tu mets aussi à ce moment-là. Va à la fois très bien et en même temps n'a aucun rapport. Enfin, c'est une musique qui n'est pas la musique techno qu'on pourrait attendre. Peut-être on pourrait l'entendre d'ailleurs, cette musique,
tout à fait.
En la mettant en extrait, et que les gens entendent quelque chose qui à l'image n'apparaît pas du tout comme ce qu'on va entendre. Enfin, je sais pas trop bien comment.
C'est une musique des musiciens irakiens.
D'accord.
En fait.
D'accord. Sur fond de discothèque,
de boîte de
ça.
Sur ce que vous avez dit sur les rapports entre mon frère et moi, et cette conversation qui est conversation, confrontation. Et c'est que je pense que bon, mon point de vue est que ce que je filme, ce que je pense qu'il faut filmer, c'est ce qui nous est proche. Et je pense que ce que je fais, je tourne mon regard vers quelqu'un qui m'est proche. Parce que je peux parler des soldats israéliens, des réservistes en général, tout, mais les réservistes que je connais, la personne que je connais, c'est mon frère. Et donc je peux me permettre, et, en tant que quelqu'un qui ne vit plus le quotidien israélien. Je l'ai vécu, mais je ne le vis plus. Et actuellement, je vis en France. Où il n'y a pas une guerre, où il n'y a pas de conflits. Et donc, je peux me permettre de poser des questions et dures à quelqu'un que je connais, de tourner les regards vers quelqu'un que je connais bien. Et pas vers un soldat quelconque.
Et du coup, tu as un double regard. Tu as à la fois le regard de quelqu'un qui connaît ton frère et qui peut instaurer un terrain de confiance, et en même temps, le regard de celle qui habite à Paris maintenant.
Oui,
il y a un regard extérieur aussi, en fait.
Disons que ça, c'est vrai. Oui, c'est absolument vrai. Mais c'est vrai aussi que je peux pas attaquer, mais y aller avec quelqu'un que je connais vraiment.
Oui, on sent pas d'attaque agressive, mais il y a des aiguillons.
Je peux pas faire des reproches à quelqu'un que je ne connais pas.
Oui.
Je peux faire des reproches théoriques, oui, c'est très très bien tout ça, mais vraiment des vrais questionnements, des vrais reproches, je peux faire à quelqu'un qui est proche à moi, que je connais bien.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a une grande différence entre filmer quelqu'un qu'on connaît et filmer quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout.
Mm-hmm.
Et les regards changent quand on fait ça, c'est tout.
Mm-hmm.
Voilà, je voulais juste parler un petit peu de ça.
Non, t'as très bien fait de...
Et ça, on le ressent tout à fait quand on voit ce film. Merci beaucoup, Carmit, en tout cas, d'être venue et nous en avoir parlé. Je rappelle donc juste qu'il sera projeté au Festival Bobine Rebelle, donc le 26 novembre, à 15h30, et qu'il sera suivi d'un débat. Donc, on a la chance d'avoir Carmit qui sera là pour ça. Tu parlais effectivement du fait de filmer des gens qu'on connaît et de ce rapport important. Il se trouve qu'on le retrouve aussi dans le film Yvette, dont on va vous parler juste après la pause, qui est un film burkinabé et où on ressent aussi cette proximité entre les personnages.
الجزائر تتهول كل نسوان يستغول قبالة موريسي ولا لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش الجزائر تتهول كل نسوان يستغول قبالة موريسي ولا لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش تدخي مستي ما وين عندها شاسي لوين وين يسال وليس دايمين الهمني والمناش الهمني وسقندور واسو شكر سو تاكسي يكرو غبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش سترول الهمي صار وسقندور واسو شكر سو تاكسي يكرو غبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش الفرق ديما ديما زال الهمام تزال تيلا وين خزن المال يكوش للوراش يكوش للوراش
Un peu d'air frais. Donc on vient de parler avec Carmit Arèche de son film Demain et à présent donc, on va parler avec Mickaël Damperon d'un film qui s'appelle Yvette, qui dure 20 minutes, qui a été fait en 2011 et qui s'inscrit dans le cadre d'un atelier, l'atelier Caïcédra, dont Mickaël va nous parler. Et donc en fait, toi, Mickaël, tu es en quelque sorte le responsable encadrant, un des encadrants du moins de cet atelier qui se passe au Burkina Faso. Moi, j'ai sous les yeux une brochure qui présente un peu cet atelier. Et il y a une phrase qui m'a marquée, qui dit en fait « Des films réalisés non plus sur la population, mais avec la population elle-même ». Alors, voilà, déjà cette phrase, elle marque. On se dit avec la population, alors pourquoi pas par la population, déjà
ouais.
Quelle est cette importance de avec la population
Bon, bonjour, déjà. Bonjour. C'est vrai que tu soulignes le pourquoi pas par. Alors, au départ, bon, c'est vrai que c'est une phrase, c'est notre leitmotiv un peu, c'est quelque chose qu'on avait pensé et puis qui s'est révélé à travers cet atelier. Pourquoi pas par, parce que ça serait faux de dire que ces films sont réalisés par eux exclusivement. On pourrait comprendre que c'est par eux exclusivement. Or, c'est pas le cas. C'est un atelier qui dure 15 jours. Donc, il y a deux films qui ont été réalisés avec deux encadrants. Moi, j'en suis un. Et ce qui veut dire qu'en 15 jours, c'est difficile de mettre des caméras dans les mains de gens qui n'ont jamais vu de caméra, jamais touché de caméra, jamais fait de film, et puis les laisser faire tout seul les choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est revenu sur le par qui était là au départ, effectivement, et en se disant, c'est plus juste de dire avec, parce que nous, on a pris part.
Pour le tout à fait, c'est ça. Voilà. Part à ce avec.
Voilà, on a pris part.
Et alors du coup, justement, donc ces ateliers de 15 jours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est important de raconter un peu la genèse de ce projet, parce qu'on peut se demander, tiens, un atelier au Burkina, et puis c'est un Français qui vient nous en parler. C'est une vraie question. Donc, déjà dire que cet atelier, au départ, c'est une volonté d'une association qui se trouve à Ouagadougou, donc la capitale du Burkina, qui s'appelle ILA, Image de l'autre, qui fait de la sensibilisation sur les questions des questions qui peuvent être de société, on va dire, qui peuvent être de droits humains, par exemple. Ils font ça à travers la diffusion de films. Donc des films que soit eux fabriquent, soit diffusent, récupèrent pour diffuser dans différents endroits, notamment dans des villages. Donc ils travaillent là-dessus depuis un moment maintenant, et ils avaient envie d'ouvrir un peu plus leur activité et pourquoi pas d'essayer de mettre en place un atelier. Il se trouve qu'un des... Une des personnes qui fait partie de cette association est burkinabé et vit à Bordeaux maintenant. Et il est prof d'anthropologie visuelle, il s'appelle Dragos Ouedraogo. Et c'est l'ancien prof du second encadrant qui s'appelle Yvan Froberg. Voilà, donc voilà comment ça s'est créé la connexion. Et ensuite, ils ont discuté de ça, sachant qu'Yvan faisait des ateliers. Donc des ateliers qui sont un peu dans ce courant d'éducation populaire, on va dire, depuis des années, que moi j'en fais depuis quelques années maintenant. Et donc ils se sont dit, pourquoi pas essayer de monter quelque chose là-bas avec notre savoir-faire. Donc on a réfléchi, ça s'est pas fait tout de suite. On a écrit un joli dossier pour essayer de trouver de l'argent. Mais bon, étant donné que c'est pas vraiment notre partie, on n'est pas très doué pour faire ça et qu'on n'avait pas les connexions, ça s'est un peu passé à la trappe. Et pour écrire ce dossier, on est allé en repérage une première année, donc en 2010, pour à la fois rencontrer les gens qui étaient sur place, donc les gens d'Image de l'autre, et puis aussi des gens du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le MBDHP, qui a pris part au projet par la suite, et discuter avec eux de qu'est-ce qui serait intéressant de faire, c'est-à-dire cibler un endroit au Burkina où il se passe des choses actuellement, où les gens auraient des choses à dire parce qu'il y a un événement ou parce qu'ils sont à ce moment-là dans des questionnements qui sont importants pour eux. Et donc on est allé dans deux régions, rencontrer à la fois les gens sur le terrain et puis discuter de ce qui pouvait être intéressant à filmer. Voilà. Donc ça c'était une première année, on a rencontré tout le monde et puis finalement on a choisi donc un des deux lieux qui est Réo, donc la ville de Réo avec le petit village de Perkouan qui est juste à côté, et où il se passait à ce moment-là, quand on est arrivé, il y avait un conflit ouvert entre des ouvriers qui sont des paysans, des villageois de ce village Perkouan, et une multinationale qui embauchait ces paysans pour travailler dans une mine donc de zinc qui était en construction. Donc en gros, ce qui s'est passé, voilà, c'est que la mine, ils ont commencé à creuser, ils ont embauché énormément de gens. Bon, dans des conditions, on pourra y revenir parce qu'il y a un des films qui traite de ça.
Oui, c'est le film qui s'appelle Wash the Car.
Voilà, Wash the Car d'abord, le second film. Donc, ils ont été embauchés et puis ils ont travaillé pendant une petite année. Et donc, le zinc, comment ça marche ? Et ben voilà, il est sur les marchés mondiaux, ça s'échange, etc. Et puis, le cours du zinc a chuté. Et donc, du jour au lendemain, on a appelé les responsables de la mine sur place, qui sont des Australiens qui exploitent ce lieu, en disant, on arrête de travailler, ça vaut plus le coup de dépenser de l'argent, puisque le zinc ne coûte plus rien. Donc, du jour au lendemain, tout le monde s'est fait mettre à la porte. Donc, nous, on est arrivés à peu près à ce moment-là. Et là, effectivement, ça posait beaucoup de questions. Sur quels droits ils ont de mettre des gens comme ça à la porte, déjà qu'il y avait des conditions de travail qui étaient plus que dénonçables,
Oui, oui.
Voilà. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, ici, il se passe quelque chose, il y a possibilité de travailler. On s'est connecté avec le MBDHP, donc le Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme, qui a... c'est une composante importante de la société civile là-bas, dans le sens où ils ont des antennes un peu partout dans le pays, avec des gens qui travaillent sur place, dans des lieux. Enfin, ça paraît bête de dire ça, mais ils ont des structures, ce qui est pas évident dans un pays comme le Burkina, et ils aident les gens dans ces proximités-là. Ils répondent à des questions qui leur sont posées. Voilà. Et donc on a rencontré ces gens, il y avait une structure, on s'est dit bon, ça peut se passer ici. On a rencontré quelques personnes qui a priori pouvaient être intéressées par l'atelier. Et puis ensuite on est rentré ici, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'écriture du dossier, essayer de trouver de l'argent, et puis ensuite donc on n'en a pas trouvé, puisqu'on n'était pas bon dans ce domaine. On s'est rendu compte que malgré notre joli dossier qui nous tenait à cœur vraiment, parce qu'on
oui, il est très bien ce dossier,
ouais malgré ça, et ben à 2 mois du départ, on s'est dit, bah voilà, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens là-bas qui nous attendent un peu quand même. Nous, on a très envie de le faire. Alors, soit on dit non parce qu'on n'a pas d'argent, soit on essaye de se débrouiller. Et là, bah, on a décroché nos téléphones, on a envoyé des mails à nos amis, qui eux-mêmes ont relayé. On leur a dit, est-ce que vous n'avez pas une caméra qui traîne, un micro? Et chemin faisant, on a commencé à récupérer un peu de matériel. Parce que le projet plaisait aussi, et puis au final c'est un projet qui s'est fait donc avec tout ce matériel récupéré. Alors quand je dis récupéré, c'est vraiment, on a travaillé avec des caméras un peu anciennes, dont une il fallait taper dessus parce que le capteur déconnait, donc de temps en temps on avait une image complètement farfelue, donc c'était à peu près ça pour vous donner une idée. Et puis donc en tout, ce matériel-là, et puis 3 000 euros qui ont été à la fois des dons qu'on nous a fait parce qu'on a monté sur Internet un projet. Donc il y a des sites qui existent de crowdfunding, je crois, on appelle ça, qui permettent à des gens de donner de l'argent à des projets pour les soutenir. Donc on a récupéré un peu d'argent par là, un peu les amis, un peu la famille, puis nous on a mis de notre poche pour compléter. Donc 3 000 euros en tout pour faire ce projet-là. C'est un peu long comme introduction à l'atelier, mais je crois que c'est
important de voir dans quel cadre c'est fait. Ouais.
Voilà, bien, vraiment.
Et qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur Yvette, sur ce court film,
ouais.
Parce que ça dure 20 minutes.
Ouais. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors Yvette, ce qui se passe dans l'atelier, donc en gros, je vais revenir encore un peu en arrière, mais l'atelier, on prend un petit temps avec les personnes qui sont là pour leur montrer un peu comment fonctionnent les caméras, qu'est-ce que c'est qu'une séquence, on regarde des films ensemble, comment on doit construire un film, un début, une fin.
Ça, genre c'est 2 semaines?
Ça dure une petite semaine.
Une semaine.
Voilà, une petite semaine, et là ça a duré 5 jours. Au bout de 5 jours, on demande aux participants de venir avec des sujets, des sujets de films. Donc ils étaient 5. Il y a eu 5 sujets qui ont été proposés. Ouais. Donc la condition ouvrière, ça c'était dont j'ai parlé dans les mines, puisqu'effectivement ça c'était le gros sujet,
quoi,
du moment. Voilà. Il y avait ça, il y avait la difficulté, les problèmes quant à l'éducation, c'est-à-dire au Burkina Faso, on doit payer, les parents doivent payer à la semaine pour envoyer les enfants à l'école. Mm-hmm. Donc quand ils payent pas, les enfants se font mettre dehors du jour au lendemain. Donc ça c'était un second sujet. Il y avait le travail.
D'ailleurs on le ressent, on l'aborde un moment dans Yvette, ce sujet-là.
Mm. Ouais.
Quand elle parle justement de son fils qui ne va pas à l'école parce que elle n'a pas les moyens.
Voilà,
de payer,
c'est ça. On retrouve ces questions dans le film. Et puis c'était les problèmes d'alcoolisme aussi, voilà. Et puis 2 autres sujets, dont celui autour de la mine, la condition des ouvriers, et puis la condition de la femme. Donc il faut savoir que dans cet atelier il y avait une femme seulement, donc ça a été une petite bataille pour faire en sorte qu'il y ait une femme qui puisse venir, parce que
quel genre de bataille?
C'est-à-dire que dans la structure, la structure familiale, on va dire, classique, villageoise, qui est portée par, une tradition forte, la femme est au foyer et s'occupe du foyer, donc elle a une place essentielle au foyer. Donc lui demander de sortir pendant 10 jours, 15 jours pour aller participer à un atelier où ils vont fabriquer des films, bah tiens, à quoi ça va pouvoir ressembler ce truc-là, t'es beaucoup plus utile à la maison. Mais alors du coup, ce qui est assez joli, c'est que Marie est venue, son mari Ferdinand, avec laquelle elle a réalisé ce film, était là aussi. Donc ils sont venus tous les deux.
Et donc c'est le couple qui a réalisé le film, en fait.
C'est le couple qui a réalisé le film. Voilà, donc c'est Marie, pour en revenir à la question de départ, je m'étends
très bien,
un peu.
Non, mais... tu t'étends pas, tu mets au point.
Ouais, j'explique, oui, j'essaye. Pour revenir à la question de départ, comment est venu ce sujet ? Donc c'est Marie qui est arrivée en disant « Moi, je veux faire un film sur moi, sur ma condition de femme au village. » Donc, très bien. Alors, tu comprends que ça ne va pas être évident parce que tu ne peux pas être à la fois la réalisatrice et la personne qu'on va filmer. Oui, c'est vrai. Bon, alors, comment on fait ? Ah, bah, je vais réfléchir. Peut-être ma voisine, Yvette, qui est finalement une femme qui a à peu près la même vie que moi. Peut-être qu'elle dirait oui. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Yvette, c'est vraiment la voisine directe de Marie et Ferdinand, qui mène une vie vraiment similaire à celle de Marie.
Donc ils ont filmé quelqu'un de proche.
Voilà, ils ont filmé quelqu'un de proche, enfin, pour revenir à ce qu'on disait. Voilà.
Elle a été facile à convaincre ?
Oui. Ouais, elle a répondu assez vite. J'étais pas là, mais Marie me disait. Et puis ensuite, bon, on voit dans le film, on voit qu'elle elle est impliquée, elle a envie de dire des choses.
Il y a cette confiance qui est établie et qui fait que nous, spectateurs aussi, on est très proches de ce qu'elle vit et on sent vraiment cette relation tacite entre justement les réalisateurs et Yvette. Peut-être qu'on peut, je sais pas, écouter un extrait du film, faire une petite pause pour écouter un extrait du film avant de reprendre cette discussion fort intéressante.
Non, ne qu'on oui. Gomba kaka no wenda. La chera doyine.
Donc on vient d'entendre cet extrait où Yvette raconte sa recherche de l'or, enfin des micro-pépites d'or, quand les auditeurs vont voir le film qui sera diffusé le samedi 26 à 17h d'ailleurs. Yvette, est-ce que tu peux commenter ce...
Oui, ce travail-là d'aller chercher de l'or, enfin quand on dit chercher de l'or, comme tu disais, de la poussière d'or, hein, parce que c'est de l'or de surface. Ouais. C'est les femmes. En gros, Yvette va à quelques kilomètres du village récupérer. Donc elle creuse, je sais pas, 50 centimètres cubes de terre qu'elle prend et qu'elle ramène ensuite au village parce qu'il n'y a pas d'eau sur place pour laver la terre. Et c'est là qu'elle cherche, qu'elle regarde si elle a eu la chance d'amener de l'or avec elle. Et ça, par exemple, ce qu'on voit dans le film, elle le fait une fois, mais ça peut lui prendre toute la journée de faire des allers-retours. Donc, en gros, c'est une des activités qu'une des femmes de ce village peut avoir là-bas, à Percouin.
Et c'est une des activités de tamisage qu'on voit dans le film. Finalement, ou bien elle lave la terre pour trouver éventuellement, parce que c'est pas tout, elle trouve pas tous les jours de la poussière d'or.
Non, non.
Ou bien elle tamise et elle le millet.
Ouais.
C'est ça, c'est le millet. Je sais plus.
Oui, tu parles.
Et je disais que finalement, ce qui m'avait frappé en fait avec ces images, c'est que c'est des gestes, évidemment. C'est pas exactement pareil, mais c'est des gestes de filtrage, de tamisage, des gestes très répétitifs et qu'elle fait avec une espèce de souplesse qu'on peut pas entendre évidemment à la radio, mais qu'on peut voir à l'image.
Effectivement, on est dans une répétition, ça c'est quelque chose dont on a parlé ensemble avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant de montrer dans ce film. Là, on a essayé de travailler sur une journée type, mais qui est un peu arrangée pour le film tout de même, mais en tout cas, d'essayer de montrer un panel de ce que pouvait faire cette dame au quotidien, de ses activités difficile la plupart du temps.
Oui.
Souvent. Et du coup, ces gestes qui sont répétitifs, qui reviennent, et tout le temps, enfin, on le voit, Yvette, elle est plus costaud que moi, quoi. Je veux dire, elle a des bras, elle travaille comme un homme, quoi.
Ouais.
Donc, ça a un sens de montrer tout
ça,
de montrer ces gestes qui reviennent et de voir comment c'est huilé, quoi. Vraiment, elle, c'est quelque chose qu'elle fait, qu'elle a en elle.
Tout à fait.
Donc, oui, il y avait la volonté de montrer ça. Donc, si tu l'as remarqué, c'est très bien.
Ah, bah, très bien. Et d'ailleurs, de manière cinématographique, c'est aussi très bien fait. Je trouve qu'il y a une construction narrative quand même, malgré l'aspect documentaire, parce que c'est pas du tout antinomique, c'est que justement ces gestes répétitifs dont tu parles, moi j'ai beaucoup aimé comment ils sont montrés avec les différentes échelles de plan, c'est-à-dire qu'une même action va être vue en gros plan, après il y a un effort sur le montage avec des raccords dans l'axe où tu le vois en plus ou moins proche, donc ça permet une sorte de micro-histoire, une sorte de petit récit autour de ces tâches qui sont soit allumer le feu, soit aller dans le couper du bois avec son fils. On voit d'ailleurs que c'est très dur, elle transpire, que ce soit aller chercher de l'or, à chercher de l'eau dans le puits et tout. Et puis un travail aussi du coup sur la voix off, on entend Yvette et puis ensuite on la voit dans son entretien avec donc les réalisateurs. Comment ça s'est mis en place, cette notion de récit, justement?
C'est très simplement, en gros, on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Marie, qu'est-ce que tu as envie de montrer? J'ai envie de montrer Yvette qui travaille. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa journée? Elle peut effectivement préparer à manger, elle peut aller au jardin, elle peut concasser, elle peut aller chercher du bois, elle peut chercher de l'or. Donc voilà, on a déroulé le fil et puis on s'est dit bon ben on va essayer de créer une narration autour de ça. Et c'est une structure qui est très très simple. Vraiment, c'est elle dans ses activités et une interview. Et c'est des allers-retours. C'est un film d'atelier. Alors c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence quand même.
Oui, on le sent.
Mais en même temps, on part pas dans des essais de choses, sachant qu'on travaille avec des gens qui font ça pour la première fois. Vraiment, là, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Armit. Enfin, moi, j'ai la volonté de leur... Déjà, on essaye de construire un cadre. Qu'est-ce que c'est? Comment on se pose? Chacun sa position, attention. Donc, c'est vraiment... Tout est fixe, ou quasiment. C'est que des blancs fixes, effectivement, construits, parce qu'on a le temps, parce que Yvette aussi était très coopérative. Ouais. Ça, le fait qu'elle se connaisse très bien avec Marie, ça... jouer, c'est sûr. Donc on pouvait refaire, on pouvait dire on n'est pas d'accord, on n'est pas prêt, faut qu'on y retourne. Donc ça c'est vraiment bien. Mais alors oui, il y a une qualité de rendu, même si c'est des vieilles caméras, même si on s'est appliqué. Bon, après faut savoir que ils ont tenu la caméra. Marie était très douée pour ça. Ça c'était une jolie surprise. Mais que moi aussi je la prends la caméra, d'où le fameux pas les films par mais avec aussi. Parce que, de temps en temps, il faut, faut aller un peu vite, ou alors il faut montrer aussi, ça leur permet de voir comment nous on travaille. Et voilà, sinon, mais on avait un petit écran déporté, branché sur la caméra, ce qui nous permettait de les guider. Voilà, dire attention, t'es un peu flou, la recadre, t'es pas droite.
Tout à fait, et d'ailleurs, de ce que je lis de la brochure sur cet atelier, le devenir du film, parce qu'un film, c'est l'écriture, le tournage, mais c'est aussi après sa projection, quoi. J'ai l'impression que l'aventure continuait même après, quoi. Dans les projections, il est écrit qu'il y avait des débats, justement, et cette expérience avec la population, j'imagine, c'est à ce moment-là aussi qu'elle se transmet, quoi.
Voilà, c'est avant tout l'idée de ces films, c'est des films outils, quoi. Moi, j'aime bien dire ça, c'est des films qui sont créés pour amener le débat, quoi. Réalisés pour amener le débat, donc sur des problématiques, soit qui datent un peu, donc par exemple la condition de la femme au village, c'est quelque chose... c'est pas évident. Hein.
C'est toujours d'actualité. Ouais.
Et voilà, ou la condition ouvrière qui est propre à ce qui se passe à ce moment-là. Donc ces films ont été faits pour ensuite être portés par les réalisateurs quand nous on était là, c'est-à-dire de village en village avec un drap et un vidéoprojecteur, et on projette le film. Y a des gens qui sont là et on débat de ce qu'on voit. D'une part, et ensuite ces films ont été montrés dans le off du FESPACO, qui est le festival international panafricain de cinéma, et l'idée c'était d'amener les participants dans ce festival pour qu'ils puissent se confronter à des regards plus professionnels, on va dire, et puis aussi que eux puissent aller voir des films dans des salles, ce qui était un petit événement en soi, quoi. Mais en tout cas, voilà, ces films, alors là-bas, ils continuent à être montrés, ils sont aux mains d'une association de femmes, une association de femmes qui s'en sert comme support de débat, pour le coup. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui, lui, organise des projections ponctuellement. Il y a quelques associations avec lesquelles on est en partenariat. Tamani Culture, notamment, qui fait des projections dans les villages aussi, des projections itinérantes. Donc voilà, c'est des films, c'est des films qui, comme ça, de temps en temps, sont portés, ressurgissent. Et puis ici, en France aussi, ça nous... On les envoie, même s'ils ne sont pas destinés à être montrés ici, on les envoie parce que on aimerait bien refaire ce projet et du coup de le faire connaître, de passer dans des festivals, c'est important parce que voilà, on est en recherche, je passe mon petit message, on cherche de l'argent toujours pour remettre ça en place l'année prochaine, parce que ça plaît, parce que ça a bien marché, parce qu'on pense qu'il faut continuer et parce que on n'a toujours pas trouvé de sous.
C'est quelque chose qu'on redira du coup au festival Bobine Rebelle en ta présence le samedi 26 novembre à 17h à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Et moi, la dernière question que j'aurais voulu te poser, c'est est-ce que Marie a continué à faire des films ?
Alors, ouais, ça faisait partie du projet, je vais répondre vite. L'idée à la base, c'était de laisser le matériel aux mains des gens qui seraient formés pour qu'ensuite ils deviennent eux-mêmes les réalisateurs à part entière. Pour un premier essai, il faut pas se leurrer, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des difficultés à mettre en place tout ça, en 15 jours en plus, c'était un peu ambitieux de dire on va laisser le matériel et ils vont pouvoir tout faire eux-mêmes. Donc pour une première édition, non, ça on n'a pas réussi.
D'accord.
Par contre, on a bien en tête l'idée de le refaire et comme on avait envie de le faire au départ, c'est-à-dire qu'ils deviennent autonomes et qu'on leur laisse le matériel et qu'après ils continuent, quoi.
Merci beaucoup Mickaël, merci Carmen. Donc là, on vient d'écouter la chanson du générique de fin du film Yvette. Donc, ce chant est entonné par les femmes du village de Percouan à l'honneur de Yvette et son travail.
Yvette, qu'on pourra voir au festival Bobine Rebelle le 26 novembre à 17h, en présence du réalisateur, de l'encadrant du projet Caïcédra, et le film intitulé « Demain » de Carmit Arache, qu'on pourra voir le samedi 26 novembre à 15h30 à la Bourse du Travail à Saint-Denis. En présence aussi de la réalisatrice Carmit.
Tu verras quand...
Silence.
Moteur.
Ça tourne.
Annonce. Bobine Rebelle, deuxième. Action. Bobine Rebelle, festival de documentaires d'auteurs. Festival de documentaires politiques et sociales à prix libre. Le 26 et 27 novembre, à Saint-Denis, à la Bourse du Travail, au métro Porte de Paris.